Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, je vais évoquer pour vous une terre lointaine qui fit longtemps rêver les navigateurs. Pour l'atteindre, il fallait avoir l'audace de braver 50e hurlant et 40e rugissant. Mais à la clé, quelle récompense ! Le fameux 5e continent mythique, joyau que tous les souverains d'Europe rêvaient de conquérir et d'ajouter à leur couronne. Finalement, ce sont deux Français qui découvrent ces terres inconnues. Yves-Joseph de Kerguelen-Trémarec et son compagnon de voyage, Jean Alénaud de Saint-Allouarne. Ah, le hic, c'est que ni l'un ni l'autre ne vont mettre le pied sur les continents qu'ils ont découverts. Alors, Kerguelen et Saint-Allouarne, vrais loups de mer ou marins d'eau douce? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode en deux parties.
Terre ! Terre !
Comment cela, terre ? Avec toute cette brume, on y voit goutte.
Kerguelen est dubitatif. À dire vrai, s'il pense bien avoir découvert le continent austral, c'est à peine s'il en voit quoi que ce soit. Ce qu'il voit surtout, ce sont d'immenses rochers abrupts de plusieurs centaines de mètres, rendant tout débarquement hasardeux. Yves-Joseph de Kerguelen-Trémarec est déjà un marin aguerri de 38 ans, lorsqu'il part à la recherche du continent austral, dont on pense alors qu'il se trouve quelque part dans l'océan Indien. Ayant quitté l'île de France, actuelle île Maurice, le 16 janvier 1772, à bord de la flûte La Fortune, suivi de la gabarre Le Gros Ventre, il aperçoit moins d'un mois plus tard des îles dont il pense à vue de nez qu'elles appartiennent au continent mythique. Il baptise aussitôt l'endroit du beau nom de France australe. Mais baptiser une terre inconnue, cela signifie à l'époque satisfaire un certain nombre d'obligations formelles, à commencer par mettre le pied sur la terre en question. Ensuite, il convient de déposer sur place une bouteille contenant un parchemin où l'on déclare par écrit prendre possession du lieu au nom du roi. Ce dépôt de bouteille est généralement suivi d'une salve de mousqueterie en l'honneur de la découverte et si l'on veut faire les choses bien et que l'on dispose du matériel requis, on clouera, bien en évidence sur quelques rochers, des plaques de cuivre mentionnant jour et année de l'exploit, état civil, pays d'origine des découvreurs et toute autre information jugée utile. Or, Kerguelen ne va pas mettre le pied sur la terre qu'il vient de découvrir, ce qui ne l'empêchera évidemment pas d'en vanter les nombreux mérites au roi Louis XV. Bon, à sa décharge, il faut reconnaître qu'accoster ces îles n'a rien d'une promenade de santé. La plupart du temps, la mer y est déchaînée, les vents violents, il y a une forte barre et une brume épaisse, d'immenses rochers infranchissables. Biographe de Kerguelen, Alain Boulet résume cela avec esprit.
Il faut bien avouer que lors du premier voyage, il n'a pas vu grand-chose de ses découvertes.
Notre découvreur reste donc au large. Par la suite, il fera porter le chapeau de sa propre passivité et de son maintien en retrait au second de l'expédition, un certain de Saint-Allouarne, capitaine du Gros Ventre. Dans son récit de voyage, Kerguelen justifie son attitude en ces termes.
« Monsieur de Saint-Allouarne, faisant attention à l'état de ma mâture, me conseilla de rester dans la position où j'étais.
En d'autres termes, s'il ne débarque pas, c'est sur l'amicale sollicitation de son second et en raison d'un vague problème de mât. D'un naturel optimiste, Kerguelen baptise « Île de la Fortune », nom de son bâtiment, ça tombe très bien, l'île sur laquelle sera effectuée une première tentative de débarquement. Quelques années plus tard, le grand explorateur anglais James Cook estimera plus pertinent de nommer l'archipel en question « île de la désolation ». Mais nous n'en sommes pas encore là. Et Kerguelen a bon moral. Le continent austral, tout de même, ça n'est pas rien. Il envoie donc deux enseignes de vaisseaux, de Bois-Guéhenneuc, second du Gros Ventre, et de Rosilly, second de la Fortune, exécuter un périlleux débarquement au fond d'une petite baie. Les deux jeunes gens prennent possession du territoire au nom de Louis XV, mais quand ils reviennent, Surprise, la fortune a disparu. Seul reste le gros ventre. Sans attendre le retour du canot qui a fait le débarquement, sans convenir de rien avec le gros ventre, Kerguelen a mis les voiles. Le gros ventre va le rechercher pendant une semaine, faire signaux sur signaux, en vain. Kerguelen a regagné seul l'île de France, puis Brest, où il parvient le 16 juillet 1772. S'il est parti toute voile dehors, c'est qu'il veut annoncer au plus vite sa merveilleuse découverte à qui de droit. Dès son arrivée à Brest, il écrit donc un petit billet pour l'officier de port.
« J'ai fait la découverte d'un continent magnifique !»
écrit-il. Puis il se précipite à Compiègne où il rencontre Louis XV 10 jours plus tard et où, nous dit La Pérouse dans ses mémoires, il est reçu comme un nouveau Christophe Colomb. Fièrement, l'ambitieux marin présente la France australe dans son rapport comme la cinquième partie du monde et fait à Louis XV un exposé édifiant, bon, sur le mode Perrette et le Potelet. Hein. Il décrit les richesses dont regorge cette terre fertile, ce pays de cocagne où il suffira de se baisser pour trouver du bois, des diamants, des rubis. Aurait-il alors ajouté les veaux, vaches, cochons couvés de la fable qu'il eût sans aucun doute été cru sur parole? Il donne de ces lieux une vision paradisiaque.
Le pays est très beau et très fertile. Il est peuplé d'un grand nombre d'habitants d'une couleur noirâtre.
Oui, pour cause, ce sont des colonies de manchots.
Et de nombreux bestiaux.
Qui, hélas, ne sont pas des vaches à traire, mais bien des éléphants de mer vautrés sur les plages. Kerguelen conclut en ces termes son dithyrambe.
La France australe fournira de merveilleux spectacles physiques et moraux.
Oui, montrant par là qu'il se fait déjà une idée assez précise de la beauté et de la moralité des pingouins. Alors à le lire, il paraît cependant évident que lui-même croyait vraiment ce qu'il disait. On pourrait évoquer là une forme d'autosuggestion. Quoi qu'il en soit, sur le moment, tout le monde le croit. Louis XV est enthousiaste, il lui confère la croix de Saint-Louis, lui accorde le grade de capitaine de vaisseau et lui confie une seconde expédition afin qu'il pousse plus loin l'exploration des terres australes et qu'il y fonde un établissement. Deux imposants navires sont armés à cet effet, le Roland et l'Oiseau, qui quittent Brest le 26 mars 1773. Dès le départ, ce nouveau périple est mal engagé. D'abord pour son agrément personnel et en infraction absolue avec le règlement de la marine, Kerguelen a fait monter à bord sa maîtresse, une jeune fille nommée Louise Seguin, âgée selon les biographes de 14 ou 16 ans. Cette toute jeune femme va être à l'origine du scandale qui brisera la carrière de son amant. Il la cache à bord, puis, une fois qu'elle est découverte, la fait passer pour la servante de l'une des passagères devant être débarquée en Île-de-France. Par ailleurs, Kerguelen aggrave son cas en chargeant à son bord de la pacotille, c'est-à-dire des marchandises sans valeur qu'il compte vendre à son profit, ce qui est également formellement proscrit par le règlement de la marine. À bord, l'ambiance est délétère. L'expédition essuie plusieurs tempêtes, des hommes tombent malades. Il n'y a d'ailleurs là rien de très normal, pense chacun en son fort intérieur, puisqu'avoir des femmes à bord porte malheur. Bah, tout le monde le sait, tous les marins, bien sûr. Les amants terribles s'invectivent et se déchirent constamment, au point d'ailleurs que Kerguelen tente de faire passer Louise par-dessus le bord. Pendant ce temps-là, Rosilly, le second de Kerguelen, qui lui a vraiment vu de près l'île de la Fortune, adresse son rapport au ministre. Il y décrit une côte inaccessible, déclare cette terre inhabitable et ajoute qu'elle ne vaut pas la peine qu'on y retourne. Le jour même, une lettre part de Versailles pour exiger de Kerguelen qu'il mette un terme à son équipée. Ah, trop tard. Après avoir fait escale en Île-de-France où il s'est adjoint un bateau supplémentaire, la Dauphine, Kerguelen fait route vers son continent imaginaire. « Le 1er décembre, la France australe est à nouveau en vue. Enfin, en vue, là encore, il faut le dire vite, car il fait un temps absolument épouvantable et c'est entre de bourrasques de neige que les passagers des trois bateaux finissent par distinguer l'évidence. Le nouveau continent dépeint sous un jour si attrayant à Louis XV n'est point le vert paradis où foisonnent rubis et diamants, mais un îlot inhospitalier où la seule chose susceptible de briller au soleil est la glace. Malgré des conditions très défavorables, Kerguelen va-t-il avoir à cœur de mettre le pied sur le continent qu'il croyait naguère avoir découvert ? Eh bien, pas davantage que la fois précédente. L'explorateur est alors hors d'état de mettre le pied à terre, car il souffre depuis plusieurs jours d'un douloureux érysipèle. Un érysipèle, c'est une infection bactérienne de la peau. Et elle lui met les nerfs à vif. Érysipèle ou pas, les voyages dans ces eaux inhospitalières se suivent et se ressemblent. Pendant 25 jours, les trois navires tentent de s'approcher de la côte, se suivent, sont séparés par des coups de vent, se perdent de vue. Le 25 décembre, Kerguelen désigne deux marins chargés de mettre pied à terre coûte que coûte avec l'un des canots de la Dauphine, tandis que lui-même se tiendra à bord de son navire au large d'une île en forme de soulier qu'il a surnommée la pantoufle. Et en effet, pantoufler est à proprement parler ce qu'il va faire pendant que ses compagnons s'escriment à accoster. Finalement, le 8 janvier 1774, les deux enseignes de vaisseaux parviennent à débarquer. On retrouve la première bouteille, on cloue les plaques de cuivre, mais le plus gros reste à faire. Pousser plus loin la découverte et créer un établissement, puisque ce sont là les ordres du roi Louis XV. Seulement voilà, Kerguelen semble avoir pris l'archipel en grippe. Lors de la précédente expédition, il était parti sans attendre le gros ventre. Cette fois-ci, le 18 janvier, il va purement et simplement désobéir aux ordres et partir vers le nord, direction Madagascar. Découragement, maladie, épuisement, peut-être aussi espoir de découvrir une terre plus intéressante et d'ainsi rattraper sa bévue. Toujours est-il que reniant totalement sa mission, il se carapate une fois encore sans avoir débarqué sur ces îles qui bientôt porteront son nom. Dans un accès inhabituel de clairvoyance, il écrit au ministre de Boine, le secrétaire d'État à la marine, que les terres découvertes ne présentent aucune ressource, qu'il n'y a que des pingouins et des loups marins et qu'il ne semble pas qu'elles soient habitées. Quand enfin Kerguelen retourne en France, Louis XV vient de mourir. Tous les ministres ont changé, notamment de Boine. Kerguelen n'a donc plus de protecteur. Et Louis XVI, qui raffole des vrais explorateurs, ne dit-on pas qu'à quelques minutes de son exécution, il demanda si l'on avait des nouvelles de La Pérouse, disparue en 1788 au cours de son périple autour du monde. Louis XVI donc n'aime pas l'indiscipline et les baratineurs. Kerguelen sera donc traduit devant le Conseil de guerre. Il ne sera d'ailleurs pas le seul à être jugé. Certains officiers avec lesquels il est rentré en conflit à cause de Louise le seront aussi. On va lui reprocher sa désobéissance aux instructions, l'embarquement d'une jeune femme à bord et le fait d'avoir également fait de la pacotille. Décrété de prise de corps, il est emprisonné le 22 janvier 1775. Durant les mois qui suivent, il sera durement traité et surveillé en permanence. Enfin, au terme du conseil de guerre, il est déclaré coupable 4 mois après son incarcération. Cassé de son grade de capitaine de vaisseau, destitué de son statut d'officier de marine du roi et condamné à 6 ans de forteresse. En 1782, il tentera de se justifier en publiant le récit de ses 2 voyages dans les mers australes. Mais il n'y fournira pas d'explication recevable à sa conduite et l'ouvrage sera brûlé pour offense à la justice du roi. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode d'Au cœur de l'histoire consacré à Kerguelen et Saint-Aloarn.
Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Cet épisode a été écrit et raconté par Clémentine Portier-Kaltenbach. Il a été réalisé par Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Bibliographie. Kerguelen, le phénix des mers australes, par Alain Boulaire, aux éditions France Empire, 1996. Histoire extraordinaire et inconnue des mers australes, par Gracier de Lépine, collection Ouest France, 2002. Relation de deux voyages dans les mers australes et les Indes, faits en 1771, 72, 73 et 74. Préface d'Alain Boulaire aux éditions Le Serpent de Mer, 2001. Grand zéro de l'histoire de France, par Clémentine Portier-Kaltenbach, aux éditions J.C. Lattès, 2010.